c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'Autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour, Béatrix.
Bonjour, Eduardo.
Et à la technique, Antoine. Bonjour, Antoine.
Bonjour.
Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler d'anniversaire, on peut dire, n'est-ce pas, Béatrix, 60 ans de voyage du général de Gaulle en Amérique latine, justement.
Au Mexique, précisément. Oui, au départ, mars
c'était au Mexique. Mais ensuite, bon, on va reparler après. Et nous allons parler aussi de la manifestation à niveau national de la Semaine de l'Amérique latine en France. Nous allons parler de la Colombie, avec des problèmes de l'enneigement qui commence à manquer de l'eau et les restes. Ensuite, une invitation au voyage, vous allez découvrir avec nous. Peut-être vous connaissez un peu, mais il y a des aspects qu'on ne connaît pas. Et nous allons parler du cinéma et de littérature. Voilà, donc ça c'est notre sommaire de cette semaine. Je laisse la parole à Béatrice pour nous parler de ces anniversaires, 60 ans de...
Voilà ce que nous dit le président de la Fondation Charles de Gaulle.
La Fondation, hein.
Au sujet de la visite du général de Gaulle au Mexique en mars 1964. Voilà ce qu'il nous dit. Il y a une relation particulière entre le Mexique et la France que les aléas de l'histoire n'ont pas terni. La lutte pour l'indépendance du Mexique, acquise en 1821, s'est faite au nom des idéaux de la Révolution française. La lettre de Victor Hugo de 1867 au président Juárez est plus importante dans la mémoire mexicaine que le soutien de Napoléon III à l'empereur Maximilien. On peine à imaginer l'importance de l'influence culturelle de la France jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Une importante migration à la fin du XIXe siècle installera une véritable diaspora toujours vivante et entreprenante. Dès 1940, le Mexique et l'Amérique latine seront le cœur vivant des comités France libre, avec 300 sur 400 dans le monde entier, dont 45 au Mexique. Ces comités, constitués notamment par Jacques Soustelle à la demande du général de Gaulle, permettront de combattre la propagande nazie, de susciter des volontaires pour combattre dans les rangs de la France libre et de lever des fonds. Le Mexique sera le second pays, après la Grande-Bretagne, à rompre avec Vichy et à reconnaître officiellement la France libre dès le 2 novembre 1942, 2 ans avant les États-Unis. C'est parce qu'il était conscient de cette morale que le général de Gaulle décide de faire ce premier voyage d'un chef d'État français au Mexique en mars 1964. C'est un immense succès populaire. Il convient de renforcer les liens avec ce grand pays, trop méconnu en France, à qui notre diplomatie n'accorde pas toute l'attention qu'il mérite.
Thank you. Et vous êtes bien à l'écoute de l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord. Et nous allons parler, Béatrice, de la semaine au pluriel, hein, de l'Amérique latine en France, n'est-ce pas ?
Oui, c'est un communiqué du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Du 16 mai au 2 juin prochain, la France met à l'honneur l'Amérique latine et les Caraïbes à travers la 11e édition des Semaines de l'Amérique latine et des Caraïbes. Une occasion de célébrer les liens d'amitié et les intérêts partagés entre nos deux régions, mais aussi de découvrir la richesse et la diversité de ce sous-continent autour d'une riche palette d'événements culturels, scientifiques, politiques ou simplement festifs. Tous les partenaires intéressés peuvent adresser leurs propositions en remplissant en ligne le formulaire d'inscription. Les premiers éléments du programme 2024 sont désormais en ligne et continuent de s'enrichir chaque jour. Vous pouvez revivre l'expérience des semaines d'Amérique latine en visionnant les vidéos réalisées par le ministère des Affaires étrangères.
Oui, et il faut préciser que cette activité a été instaurée par les GENA de la République française, hein, déjà il y a 9 ans. Donc, l'association Dordogne-Périgord Amérique latine participera cette année aussi. Et surtout avec nos émissions radio ARLP, et notre participation va être affichée probablement avec aussi les logos de Radio Libre en Périgord. Rythme latinos avec ce groupe créé à Londres par un Colombien. Et nous allons parler justement de la Colombie, n'est-ce pas, Béatrix ?
Oui, des montagnes sacrées qui fondent au soleil. Les sommets enneigés qui bordent la mer des Caraïbes ne résistent pas au réchauffement climatique. Ce sont la vie et les traditions de plusieurs peuples autochtones qui sont en péril. À l'ombre d'un arbre sacré au cœur de la Sierra Nevada colombienne, des sages du peuple Arhuaco évoquent avec inquiétude l'avenir de la plus haute chaîne de montagnes côtières du monde, dont les sommets sont de moins en moins enneigés. Une rencontre a été organisée avec des journalistes dans le village de Nabusimaque, 8000 habitants, à près de 1900 mètres d'altitude. « Il fait chaque année un peu plus chaud », dit un des habitants, persuadé que c'est une conséquence de l'activité humaine. La quasi-totalité des glaciers tropicaux de la planète se situe dans les Andes. Il n'en reste plus que 6 des 14 qui existaient en Colombie au début du 19e siècle, selon les données officielles. Le réchauffement mondial et la crise climatique sont généralisés. Tous les glaciers perpétuels qui existaient dans la Sierra Nevada sont en train de disparaître, alerte Léonor Zalabata, première personne autochtone à représenter la Colombie à l'ONU. En janvier, on a enregistré une température record de 40 degrés dans la ville côtière de Santa Marta, au pied de la Sierra Nevada. La canicule de la mi-journée alternée avec des gelées matinales qui ont ruiné les récoltes. Les indigènes espèrent que ces conditions extrêmes s'apaiseront et qu'ils pourront planter haricots, choux et maïs. Nous sommes ici pour vivre en paix, en harmonie avec la terre, disent les chefs spirituels Arhuaco.
Et oui, on peut ajouter que parmi les inquiétudes des Arhuacos, également, depuis l'année dernière, la présence dans la région de groupes paramilitaires et de bandes criminelles liées au narcotrafic. Alors que les pourparlers avec le gouvernement du président Gustavo Petro, qui a promis une paix totale, sont dans l'impasse. Voilà donc ce qu'on peut parler de ces peuples, de ces régions en Colombie. Mais nous allons revenir encore en Colombie, mais nous allons écouter aussi de la musique. Musique de l'Amérique latine sur le son de Radio Libre en Périgord. Et nous allons peut-être vous faire une invitation au voyage, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui, une échappée lointaine dans le Pacifique. Au Chili, bon, l'île de Pâques, Rapa Nui Rapa Nui fut définitivement rattachée au Chili en 1966. Les premiers habitants seraient arrivés des îles Marquises au VIe siècle. Ces quelques 1000 moailles, statues auréolées de mystère, attirent le monde entier. Taillées dans la pierre volcanique, elles mesurent de 4 à 8 mètres de haut et pèsent plusieurs tonnes. Tournées vers l'intérieur de l'île, dos à la mer, elles regardent vers le ciel. Seules les 7 moailles du site Ahuaquivi regardent vers l'océan. Ces sentinelles géantes ont été sculptées dans une carrière célèbre auprès du volcan Rano Raracu. À voir encore les 15 moailles alignées à la capitale, Angaroa, et son musée anthropologique pour en savoir plus sur la culture Rapa Nui.
Il faut signaler, Béatrice, qu'on ne sait pas trop que ça appartient au Chili depuis... Quelle année tu as dit ?
1966.
Voilà. Et... C'est des populations qui sont vraiment comme... Ils sont venus d'où, tu avais indiqué ?
Des îles Marquises.
Donc c'est des...
Des Polynésiens.
Polynésiens, exactement. Voilà. Et là, on va aussi dans un autre pays. On ne connaît pas trop non plus. On dit Galapagos,
si,
mais
on
oublie que c'est un archipel.
Oui. Petit paradis terrestre, les Galapagos sont ceinturés par une immense réserve marine... dans laquelle évoluent des espèces uniques. Selon l'UNESCO, aucun autre site au monde ne peut offrir une telle expérience de plongée sous-marine. Isabella, la plus grande des îles de l'archipel, abrite les fameuses tortues géantes. Île Floreana héberge une lagune peuplée de flamants roses, ainsi que la couronne du diable, accueillant pingouins, otaries, lions de mer, pléthore d'oiseaux marins, pélicans, fous à pieds nus. À pied bleu, pardon. Sur l'île Fernandina se trouve l'un des volcans les plus actifs au monde.
Thank you. Joropo, joropo colombiano, parce que la Colombie, maintenant, on parle beaucoup. Et justement, on va passer à une autre chose. On va parler de cinéma, un film argentin, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui, il s'agit du dernier film de Los Delincuentes du cinéaste Rodrigo Moreno. L'épopée serpentine de deux petits criminels argentins, quand deux modestes employés de banque décident de se servir dans la caisse. Une flânerie poétique signée donc du cinéaste Rodrigo Moreno. Autour de quelques films inconnus de ce côté-ci de l'Atlantique, à l'exception d'El Custodio, en 2006, Rodrigo Moreno revient avec une fresque de 3 heures. Il s'agit de deux modestes serviteurs d'un système qui leur en met quotidiennement plein la vue. La nouveauté de Los Delincuentes est l'aspiration sourde à une liberté, refus de la routine productiviste, élan poétique vers les contrées édéniques, amour à vivre tout de suite ou jamais. Que la construction même du récit, aventureuse et désaffectée, adopte en premier lieu. Soit deux employés de banque, Roman et Moran, sont mis au service d'un film de casse qui se casse avant même que le forfait n'ait lieu. Bienvenue donc à Buenos Aires, où on retrouve Moran, enfermé à rassembler des liasses de billets dans des sacs en plastique. Au terme d'une journée morne, l'absence inopinée d'un employé permet à Moran de descendre seul remettre la recette dans les coffres. L'occasion, c'est connu, créant le larron, il ressort avec 650 000 dollars sous le bras et contacte aussitôt Roman pour lui proposer un marché dont rien n'aura laissé supposer qu'il avait eu la latitude de le mijoter.
Alors,
d'écrire la suite est une autre paire de manches. Et voilà ce que nous dit le cinéaste à propos du gouvernement de Javier Milei. Depuis la dictature, nous n'avions jamais eu au gouvernement un gouvernement aussi réactionnaire.
Et nous allons parler, après le cinéma, nous allons parler de littérature, Béatrix, n'est-ce pas?
Oui, au sujet du dernier livre de Gabriel Garcia Marquez, qui a été écrit, signé par Isabelle de Montverchaussy dans le dernier Sud-Ouest. Prix Nobel de littérature en 1982, Gabriel Garcia Marquez avait cette fascination des hommes de son temps et de sa culture latino-américaine pour les femmes. C'est la célébration du plaisir à travers d'une femme d'une cinquantaine d'années, soudaine, libre et audacieuse. Anna Magdalena Bach vient chaque 16 août fleurir la tombe de sa mère qui a voulu reposer dans cette petite île des Caraïbes. C'est un pèlerinage qu'elle effectue seule depuis des années. Une traversée en bac, une nuit d'hôtel, le gin, la fleuriste, le taxi. Son mari, qui dirige un conservatoire de musique, ne l'accompagne pas. Pas plus que son fils ni sa fille. Anna emporte toujours quelques livres avec elle, un peu de cinéma, beaucoup de musique, dont le clair de lune de Debussy, arrangé en boléro. De l'andante à la sensualité latino-américaine, ce texte flamboyant épouse le rythme langoureux et lyrique. 5 rencontres, 5 amants d'un soir. En agosto nos vemos, nous nous verrons en août, est un livre encore imparfait, brut, avant sa publication. Il n'en est que plus émouvant entre le premier jet et cette version définitive. Mais l'écriture brillante, chaleureuse, transporte sous le ciel de cette île, embrassée par une lagune où les hérons dansent dans le vent. Un lumineux mélange de douceur et d'intensité.
Merci Béatrix, c'est intéressant le commentaire d'Isabelle Jouvert, comment tu dis ?
Isabelle de Montverchaussy.
Oui. Et dans les archives de notre association d'OPEAL, nous avons justement un reportage et où on peut entendre Gabriel García Márquez quand il avait écrit ce dernier livre, évidemment avant celui-là. Donc on va l'écouter. N'oublions pas, c'est un reportage envoyé par Radio Nationale d'Espagne en espagnol.
Las memorias de Gabriel García Márquez.
En la oscuridad de un cine, y sin saber que yo estaba cerca, una amiga de entonces le dijo a alguien: el pobre Gabito es un caso perdido.
La noticia de la publicación de las memorias de uno de los escritores más importantes que ha pasado por el planeta ha sido todo un acontecimiento en España y Europa. Vivir para contarla lleva por título la obra que recoge las experiencias del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez.
A la salida del Café Colombia, junto a la librería, me emparejé con don Ramón Viñes, el viejo maestro y librero catalán, y le pedí prestados 10 pesos. Solo tenía 6.
La publicación de estas memorias yo, en España, supuesto, y me atrevo a decir que en todo el ámbito de la lengua española, es un acontecimiento de suma importancia por varias razones. Primera, porque se trata de un testimonio de primera mano de uno de los escritores más queridos, más mitificados y más esperados de nuestro ámbito.
No iba a Aracataca desde hacía 14 años, cuando murió mi abuelo materno y me llevaron a vivir con mis padres en Barranquilla. Hasta la adolescencia, la memoria tiene más interés en el futuro.
Las memorias de García Márquez se han convertido en un fenómeno editorial. José Ramón Ripoll, de quien dijo Caballero Bonal que convierte los elementos de la propia educación sentimental en su más fructífera cantera temática, ofrece sus reflexiones.
Yo creo que García Márquez no trata solamente con esta memoria de exponer por escrito una experiencia vital propia, sino también de hacer una novela. Para García Márquez, la memoria es una herramienta más de la literatura, y creo que en ese rastreo de su vida, en ese rastreo por la nostalgia, por los recovecos de la memoria, por los rincones perdidos, ha hecho o ha escrito la última novela.
Al atardecer, sobre todo en diciembre, cuando pasaban las lluvias y el aire se volvía de diamante, la Sierra Nevada de Santa Marta parecía acercarse con sus picachos blancos hasta las plantaciones.
Con ocasión de una tertulia organizada por la Diputación Provincial de Cádiz y Revista Atlántica de Poesía, publicación que yo dirijo, pues aprovechamos algunos comentarios que había hecho García Márquez de que tenía ganas de visitar Cádiz, y bueno, pues por una serie de azares y de acontecimientos, ya sabemos que García Márquez es muy difícil pues de acapararlo o de pillarlo, pero en esta ocasión dijo que sí. A él le había hablado mucho de Cádiz su amigo Álvaro Mutis. Lo cierto es que yo creo que se pasó unos días estupendos, y hablamos sobre todo de poesía, porque el público que había en ese momento en Cádiz, convocado por la Revista Atlántica de Poesía, era un público gustoso de la poesía. No era un acto público, era un acto por invitación, porque él, como tímido que es, dijo que no quería hablar en público. Cuando de pronto vio que había 50 personas, dice: no puede haber 50 poetas jóvenes en Cádiz, me habéis engañado.
La única manera de llegar a Aracataca desde Barranquilla era en una destartalada lancha de motor por un caño excavado a brazo de esclavo durante la colonia, y luego a través de una vasta ciénaga de aguas turbias y desoladas.
Yo creo que García Márquez se ha relacionado pues con figuras españolas cuando se han encontrado en congresos. Yo me atrevería a hablar de un caso que creo que es decisivo en la historia de la narrativa, o sea, en el panorama narrativo o el panorama literario español con respecto de la obra de García Márquez, que es el caso de José Manuel Caballero Bonal. José Manuel Caballero Bonal estuvo en Colombia de profesor en el año, me parece, 59, 60, 61, y allí conoció a García Márquez, y yo creo que de alguna manera pues le influyó, y de alguna forma Caballero Bonal trajo ese espíritu de la nueva narrativa hispanoamericana desde también la óptica de García Márquez, ¿no?
Durante las vacaciones de Navidad bordaba en bastidor con sus amigas, tocaba el clavicordio en los bazares de caridad y asistía con una tía chaperona a los bailes más depurados de la timorata aristocracia local, pero nadie le había conocido novio alguno cuando se casó contra la voluntad...
En círculos literarios españoles es conocida la anécdota de que un editor rechazó la publicación de Cien años de soledad por su dudosa calidad.
Notre émission L'autre Amérique touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrice qui nous a livré des infos sur l'Amérique latine et sur la France aussi avec Charles de Gaulle. Et merci à Antoine à la technique. Muchas gracias, hasta pronto.